Mangeant comme tu Michel. Mange. Qu'est-ce que tu ne manges pas? Tu vas pas mourir.
Existe, vous n'êtes pas riche. Tant que la détresse existe, vous n'êtes pas heureux. Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas libre.
Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans.
C'est Bardini qui va déclencher l'opération. Il arrangera une rencontre avec des gens en qui tu as confiance. Il garantira ta sécurité. Et c'est à ce moment que tu seras assassiné. J'en suis fier à prendre soin de ma famille. J'ai toujours refusé d'être un pantin, de danser au bout d'un fil tiré par des gros bonnets. J'en suis pas honteux, c'est ma vie, mais je voulais que, quand ton heure viendrait, que ce soit toi qui tire les ficelles. Sénateur Orléans. Gouverneur Corleone, ou bien...
Être un politicien.
Maintenant, écoute, celui qui viendra te parler d'une rencontre avec Bardini, ce sera lui, le traître. N'oublie pas ça.
Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes.
Vous gagnez 1000 francs et vous avez une heure pour les dépenser. Vous faites quoi?
Des folies. Je crois que je partirai de Nation, RER, première classe, billet première classe. J'irai aux Champs-Élysées, fast-food de luxe. Un bon hamburger, je repars en première classe, je rentre chez moi, je me couche. Des folies. Des folies.
Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove...
C'est un film curieux parce que c'est... Bon, même si le titre, c'est Journal intime... Bon, le titre italien, c'est Cher Journal, enfin, d'un caro diario. On ne sait jamais si c'est un journal intime, si c'est sur le journal intime, si c'est sur une fiction de journal intime. Ça, je trouvais que c'était déjà étonnant. J'avais vraiment l'impression d'un... J'ai vraiment toujours l'impression d'un film extraordinairement libre. C'est-à-dire que ça va du côté autobiographique... à la partie pratiquement documentaire, passant par la fiction, sans que jamais ce soit des pôles fixes comme ça. Il y a toujours des allers-retours, avec dans tel ou tel propos apparent, des espèces d'incongruités qui arrivent et qui illuminent un peu le film.
Casal Palocco, passando accanto a queste case. Sento tutto un odore di tute indossate al posto dei vestiti, un odore di videocassette, cani in giardino a far la guardia e pizze già pronte dentro scatole di cartone. Ma perché sono venuti qua giù 30 anni fa?
Scusi, ma perché siete venuti a abitare qui a Casal Palocco?
C'è certi passaggi che sono... d'une grande beauté plastique et des espèces de survenues d'émotions qui sont très forts. Ben, je pense à un plan qui m'avait... Quand je l'ai revu, il y a un plan que j'avais en mémoire, mais que j'avais un petit peu relégué comme ça. Il est seul sur un terrain de football, désaffecté, pourri, enfin une espèce de... Et il se met à jouer au ballon. Et puis bon, ça monte, la caméra monte comme ça. Et on découvre cette espèce de terrain de football misérable qui est entre deux immenses plans d'eau. D'une part, la mer mobile, et d'autre part, un plan d'eau fixe comme ça. Et c'est d'une émotion extraordinaire.
Un panino, mozzarella e pomodoro. Grazie.
Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes.
Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme est ce que les sociologues ont trop gentiment nommé la société de consommation.
Cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia in Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani. Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti, compagni sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue. Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare.
L'arrivée de Mussolini au pouvoir en 1922 va encore accentuer leur exil. À plus tôt, les Italiens sont accueillis en fanfare. Tandis que dans le Lot-et-Garonne, une colonie agricole va repeupler les campagnes.
Tous les Italiens qui sont arrivés ici, dans le coin que je connais moi, avaient des terres en friche. Là, il n'y a pas lieu que ça puisse, hein. Tous ont trouvé des catastrophes. Les maisons, moitié démolies. Un mauvais foyer, de l'eau rentrée. Visibilité nulle. Électricité, pas du tout, à l'époque. Voilà. Et ils se sont débrouillés, malgré tout. Ils ont vécu de leurs produits qu'ils ont faits. Les autres, hein. Et nous, il a fallu chercher ailleurs. Mon père est arrivé à Sérignac, et il a été ouvrier carrier dans une carrière, et ça a été sa profession jusqu'à la retraite. Lui.
Mes parents sont arrivés à Lot-et-Garonne dans l'année 1925, en février, parce que c'était la montée du fascisme en Italie. Et déjà, mon oncle, le frère de mon père, il avait été pris par les fascistes. Il avait donc reçu déjà la bastonnade, l'huile de ricin, etc. Et donc, quand ils ont vu ça, on savait qu'ils allaient prendre mon père. Alors, ils ont décidé de partir. À l'époque, il y avait beaucoup d'Italiens qui sont arrivés en Lot-et-Garonne. Eux, ils avaient fait un wagon entier ou un train, je ne me rappelle pas, ma mère disait le train, donc il y en avait beaucoup. Il y avait des cousins, il y avait des amis, il y avait presque tout le village de Refrontolo était parti en même temps.
Je suis arrivé à l'école, j'avais 2 ans et demi, et j'étais plus souvent dans la culotte de la l'institutrice que dans la mienne, parce que je me salissais encore, et on a fait une scolarité de petits Français plus que d'un immigré. On n'a pas eu tellement de stress d'étrangers en France, dans un pays hostile, au contraire. Moi, je me souviens que, avec les parents ou avec les amis, on avait souvent des repas ensemble pour les communions, pour les baptêmes, les choses comme ça, mais presque toujours entre Italiens. Entre Italiens, et même les quelques mariages que j'ai connus de mes tantes d'après dans l'entre-deux-guerres se sont mariés avec des Italiens. Je n'ai connu qu'un seul mariage mixte entre 1925 et 1940 dans la commune.
Et d'ailleurs, c'est nous qui avons appris le français à nos parents. Et je me rappelle que ma mère, elle disait, pour dire « eux », elle disait « où ». Non, je lui allongeais la bouche, je faisais « eux ». Alors, elle ne pouvait pas prononcer le mot « eux ». Enfin, comme ça. Et puis après, elle apprenait à lire sur le journal, je lui apprenais à lire. Vous voyez, c'est nous qui leur avons appris le français.
Le journal antifasciste La Tesa sera dirigé par Oreste Ferrari.
Mon mari, il est arrivé dans le Lot-et-Garonne en 25. Le journal, il se faisait ici à Gênes, il y avait le bureau rue Molinier, je vous ai dit. Et il était édité, je crois qu'il était édité en Irak. Ils étaient ensemble dans le bureau avec l'indépendant du Lot-et-Garonne. Et ça parlait, évidemment, c'était un journal qui parlait contre le fascisme en Italie. J'ai connu les Campolonghi, j'ai connu tous les proscrits, beaucoup de proscrits italiens qui étaient dans cette région. Et à Toulouse, il y en avait énormément. Ils étaient très actifs pour faire connaître ce que c'est le fascisme.
La génération de mon père, quand ils sont venus, il est évident qu'ils pensaient revenir chez eux. Ils pensaient revenir chez eux, mais au bout d'une dizaine d'années, ils ont compris que leurs enfants étaient devenus pratiquement français. Et ceux qui sont nés en France, et on en a eu trois frères et sœurs qui sont nés en France, ils étaient déjà français. Et assez rapidement, puisque c'était en 1935, mon père a acheté sa propre exploitation.
Disons que moi, je ne me suis jamais sentie italienne. Je me suis toujours sentie française. Et d'ailleurs, je n'étais jamais allée en Italie jusqu'à l'an dernier. L'an dernier, j'ai décidé, à souvenir de ma mère surtout, d'aller en Italie avant de mourir. Je me suis dit, il faut que j'aille en Italie une fois. Alors nous sommes partis avec mon frère, pas ce frère-là, mais un autre frère, et nous sommes allés dans le village où mes parents sont nés. Et j'ai eu une émotion telle, mais une émotion telle qui m'a étreint, que je me suis dit, mes parents sont nés là, ils se sont aimés, ils m'ont fait là, je suis né là, et dire que je n'avais pas connu ce pays. Et ça m'a semblé tellement beau, l'Italie à moi. Et là, je me suis sentie un peu italienne, alors que jusque-là, jamais je l'avais ressenti. Jamais.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
En Italie, le verdict est tombé dans le plus grand procès jamais organisé sur l'amiante. L'ex-propriétaire du groupe Eternit et un ancien actionnaire sont condamnés chacun à 16 ans de prison. Le tribunal de Turin les a reconnus coupables de la mort de 3000 ouvriers et habitants, tous victimes de cancer. Ce proche d'un disparu est profondément ému. On repense à tout ce qu'il s'est passé. On repense à ceux qui ne sont plus là et qui nous ont accompagnés dans ce combat, explique-t-il. Des centaines de proches des victimes, notamment françaises, mais aussi les maires des villes qui ont payé un lourd tribut à l'amiante, avaient fait le déplacement à Turin pour connaître le verdict. Ils n'ont pas pu apercevoir en revanche les deux accusés, Stéphane Schmidheini et Jean-Louis Cartier de Marchienne, tous deux absents au tribunal et qui pourraient faire appel du jugement. Ils sont accusés d'avoir provoqué une catastrophe sanitaire et environnementale permanente et d'avoir enfreint les règles de la sécurité du travail. Ce procès était le tout premier de l'amiante au pénal.
D'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5h moins le quart et puis de te dire tiens, faut vite que je fume une cigarette. Je mets mon tablier, je prends mes outils, je mets une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis à 5h moins le quart et la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, ben, machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, t'arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Et tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain. Tout le monde s'en fout. Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. La promotion, non, faut pas y compter. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis ajusteur. J'ai fait 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine m'en servir. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne, bon. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller.
C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. Je lisais avant, je lis un tas de livres. Maintenant, je n'ai plus envie de lire. Je n'ai plus envie. Le besoin ne se fait plus sentir de lire. Non pas que je connaisse tout, au contraire, mais j'ai plus envie, j'en ai plus besoin. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans, je sais pas, en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à appliquer les doigts. Ma peau est sans vingt, je vais pas me l'arracher. C'est Peugeot qui me l'arrachera. Je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache. C'est pour ça que je vais pas m'arracher ma peau. Je veux pas qu'on les touche, mes mains. C'est tout ce qu'on a. Peugeot essaye de nous les bouffer, de nous les user. Et là, on lutte pour les avoir. C'est de la survie qu'on fait.
Le bruit et la fureur.